les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui dans la librairie francophone, le grand chef de cuisine Pierre Gagnaire, l'artiste comorien Elias, l'auteur suisse Antoinette Richner et l'écrivain français Daniel Pénac. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Fidèle parmi les fidèles de la librairie francophone, vous publiez un roman qui va étonner le public, un livre sur les rêves qui motivent la création. Vous êtes vous-même un grand rêveur. Comment vit-on dans cette société quand on est un rêveur, Daniel ?
Comme vous et moi, à ceci près que moi, je note mes rêves le matin quand je me réveille, après les avoir faits, la nuit, pendant que je dormais.
Ouais, à chaque fois.
À chaque fois, oui, oui.
Ça vous aide à vivre ?
Ça m'intéresse.
Ou ça vous aide à écrire, juste ?
Non, ça m'intéresse. J'aime l'énergie onirique, ce qui se passe. C'est très puissant, un rêve. Même un rêve qui est anecdotiquement, apparemment, sans importance, c'est très, 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 très puissant. Et j'aime beaucoup récupérer au matin les effets de cette puissance que je transforme en anecdotes, en petites histoires.
Et oui, et en livre. La loi du rêveur, on en parle tout à l'heure. Daniel Pénac est dans la librairie francophone en ce début 2020. Invité exceptionnel, grand témoin de cette émission. Vous entendrez et découvrirez sans doute l'artiste comorien Elias qui jouera dans notre studio. Nous parlerons de la fin possible de notre monde dans un instant avec la Suissesse Antoinette Richner pour une librairie verte grand format, notre séquence sur le monde de l'édition écolo. Et puis un grand cuisinier, Pierre Gagnaire, publie un livre magnifique qui fait la part belle aux recettes conviviales entre amis.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous. En Suisse, il y a Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez l'air en pleine forme.
Mais oui, comme d'habitude.
Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Orléans, vous dirigez la librairie Les Temps Modernes.
Oui.
Toujours aussi moderne chez
De plus en plus.
Et de plus en plus, et vous représentez la France. Merci d'être avec nous. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie du Square. Vous représentez le Canada, et vous avez un coup de gueule pour cette rentrée de janvier 2020.
Ben oui, parce qu'en fait, durant le temps des fêtes, il y a eu quelque chose d'inédit. Je me suis fait souvent poser la question par des clients, est-ce que vous vendez plus cher que telle grande chaîne que je ne nommerai pas?
Ouais.
Alors, j'en profite parce que, bon, évidemment, cette question-là surprend, bon, vexe et frustre un peu la libraire indépendante que je suis, mais je me suis dit, en fait, avec un peu de recul, les gens ne sont juste pas informés. Et je profite de ces questions-là, en fait, pour un peu renseigner les gens, pour démystifier le fait que non, c'est pas le libraire qui fixe le prix des livres.
Ouais.
Et avec un petit peu de discussion, ils finissent par se rendre compte qu'ils ont juste aucune raison d'aller acheter ailleurs.
C'est vrai. Il faut acheter les livres dans les librairies indépendantes. Hein. Je le dis à chaque fois que vous en parlez. On en parle depuis des années maintenant, plus de 10 ans dans cette émission. N'oubliez pas, ça ne coûte pas tellement plus cher ou quelques centimes. Mais qu'est-ce que ça vaut, quelques centimes, par rapport à la liberté et la défense de la culture? Merci Josiane. Déborah Damblon est en Belgique. Elle est libraire dans la librairie La Licorne à Bruxelles, toujours en 2020, pareil qu'en 2019. Bonjour Déborah.
Ouais. Bonjour Emmanuel.
Un petit coup de cœur pour commencer du coup ?
Oui, un petit coup de cœur, un grand coup de cœur Emmanuel, pour une réédition que j'ai envie de qualifier d'essentiel en poche de Les bons offices de Pierre Mertens. Vous savez, c'est un titre qui était initialement sorti aux éditions du Seuil en 1974. Et là, il ressort dans la prestigieuse collection Signature en point Seuil. Et c'est une version un tout petit peu corrigée par l'auteur, à peine. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce titre, il met en scène Paul Sanchotte qui fait un curieux métier parce qu'il est là où l'histoire est brûlante.
Mmh.
Et entre la vie privée compliquée de ce personnage et les conflits du monde, hélas, ce livre n'a pas pris une ride. Il est d'une terrible actualité. C'est à lire ou à relire absolument.
Et c'est en livre de poche, hein, donc aux éditions Point, Les bons offices de Pierre Mertens. Merci Déborah. Bonjour Pierre Gagnaire.
Bonjour.
On commence cette émission par une histoire personnelle, une anecdote étonnante, drôle, ce que vous voulez. C'est vous qui avez cette mission aujourd'hui. Quelle histoire avez-vous choisi de nous raconter?
Il y a quelques semaines, j'étais sur l'autoroute et je faisais le plein d'essence et quelqu'un s'approche de moi extrêmement excité. Je m'attendais à ce qu'il me fasse des compliments sur ma cuisine, peut-être sur mes abdos, je sais pas.
Oui.
Votre émission de téléachat, top.
Votre émission de téléachat.
Oui, c'est la télé. Moi, je passe de temps en temps à la télévision, mais pas suffisamment pour que je sois vraiment, vraiment connu, quoi. Voilà.
Ouais.
Donc, il m'a pris pour quelqu'un qui vendait des.
Ah oui.
Je sais pas, des
aspirateurs.
Des aspirateurs, ouais. Voilà.
Des produits
voilà,
magiques.
Voilà, la petite anecdote.
Merci beaucoup pour cette histoire.
C'est pas très drôle.
Merci. Bah, si, c'est drôle. Pourquoi? Pierre Gagnère est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Antoinette Richner.
Bonjour.
Régulièrement dans cette émission, nous vous proposons un sujet sur le monde de l'édition qui s'intéresse à l'écologie, parfois des éditeurs, souvent des auteurs. Une séquence nommée La Librairie Verte. Vous êtes donc une auteure suisse, Antoinette. Vous publiez Après le Monde aux éditions Buchet-Chastel, un roman d'anticipation très sombre. En 2023, une catastrophe mondiale fait vaciller l'humanité.
Alors moi, je viens vous annoncer la fin d'un système capitaliste. Patriarcale,
oui.
Plutôt prédateur envers les espèces animales. Et vous trouvez que c'est une mauvaise nouvelle.
Ah mais c'est un désastre dans votre livre, Antoinette, vous êtes consciente quand même.
Non, c'est une boutade, bien sûr. la manière, enfin, de très grands bouleversements sont absolument nécessaires et inévitables. Mais je vous l'accorde, la manière dont ça se déroule, dont ça se produit dans mon roman, n'est souhaitable pour personne.
Alors, avant 2023, en ce moment donc, on va dire, la consommation des pays développés était outrancière. Du coup, effectivement, à partir de ce constat-là, il se passe des choses terribles. Et votre roman n'est pas vraiment un roman, Antoinette, c'est plutôt une fiction d'anticipation, croisée avec un essai, un genre hybride comme ça. Tout y passe, tout y est critiqué, c'est un manifeste sans solution en fait. Vous caricaturez une situation certes désastreuse, mais à quoi ça sert? Quel est le but?
C'est vrai que si je reviens sur... Vous avez qualifié tout à l'heure mon roman de très sombre.
Oui.
Et c'est vrai que quand j'entends ça, finalement, j'entends un double reproche, peut-être. Celui, est-ce que c'est pas exagéré, d'abord? Et puis, si ça ne l'est pas, est-ce qu'on ferait pas mieux de regarder ailleurs? Et dans les deux cas, je ne suis pas d'accord. Je pense que, malheureusement, ça n'est pas exagéré.
C'est inquiétant, surtout.
Oui, mais évidemment...
Parce que c'est possible. C'est pour ça que je vous dis ça.
Tout à fait, c'est possible. Enfin, en tout cas, moi, j'accorde du crédit...
à ce que vous avez écrit, oui.
Non, pas à ce que j'ai écrit, mais aux données scientifiques qui m'ont nourri pour écrire mon roman et à ces théories de l'effondrement. Je suis convaincue qu'en tout cas, la situation actuelle n'est pas durable. Et je ne suis pas la seule à le penser.
Bon, le monde s'est écroulé. Tout se déclenche en 2022 avec un ouragan dans la baie de San Francisco. Les dégâts sont tels qu'ils sont impossibles à couvrir. Les compagnies d'assurance font faillite, entraînant les entreprises, puis les banques, puis la bourse. Ailleurs, on se dit que c'est le problème des États-Unis après tout. Sauf que le commerce international va en subir les conséquences. Il va décliner un peu partout jusqu'à être figé.
Oui, c'est ce qu'on appelle des risques systémiques, c'est-à-dire qu'actuellement, le commerce, notre économie, notre commerce est mondialisé, on le sait. Mais un exemple qui est peut-être parlant, pour comprendre ce que ça veut dire concrètement, dans une ville qui s'appelle Kaotou, en Chine, il y a actuellement 80% des boutons et des fermetures éclairs du monde entier qui sont produites au même endroit. Donc on se rend bien compte que s'il y a un problème à Kaotou, on n'a plus de fermeture éclair. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est dans un système où tout est interdépendant, où on tape beaucoup sur des transports qui ne sont pas chers, et en fait le moindre petit pépin dans ce système-là pourrait avoir des répercussions en cascade très graves.
Ça peut faire écrouler le monde, c'est ce que vous démontrez très bien sur plus de 250 pages, avec ces administrations qui sont dissoutes, l'énergie qui se raréfie, les écoles qui ferment, les hôpitaux contrôlés par les militaires. Bref, c'est le chaos et ça va très vite.
Pour moi, ce qui est important, je crois, la question essentielle à l'heure actuelle, c'est de savoir si on va réussir à mettre sur pied une transition qui soit planifiée, qui soit organisée, qui nous permette en définitive de choisir ce qu'on veut garder de notre société actuelle ou ce dont on veut se débarrasser, ou est-ce qu'on va subir justement un effondrement qui serait chaotique, qui serait très soudain, très brutal, et qui en fait nous contraindrait à perdre beaucoup d'acquis et aussi à perdre beaucoup d'êtres chers.
Et au milieu de ce chaos, il y a deux femmes qui résistent, Christelle et Barbara. Elles vont écrire et chanter l'histoire de leur monde. Elles vont parcourir les villes, comme des troubadours, en tout cas les villes qui tiennent encore debout, pour porter la parole. C'est presque biblique. Elles veulent laisser une trace de ce qui s'est passé. Elles évangélisent un peu le monde en disant, voilà, il faut repartir à zéro. Et surtout, il faut se souvenir de ce que l'on a fait.
Je ne sais pas si elles évangélisent, en tout cas elles témoignent.
Ça c'est mon interprétation. Ouais.
Elles témoignent, elles tentent de rendre compte. Et c'est vrai qu'il y a une foi dans l'acte même d'écrire ou de raconter ou de chanter, puisqu'en l'occurrence dans le monde que j'imagine, elles, elles transmettent ça plutôt par oral, en fait. Mmh. Et puis, il y a un plaisir du road trip, vous l'avez dit, elles parcourent. Voilà, il y a aussi une réduction d'échelle, c'est-à-dire qu'elles se déplacent à pied beaucoup. Donc, il y a un plaisir aussi à faire disparaître peut-être les échelles de nations et à faire réapparaître des échelles très territoriales avec des lieux dits qui ont des noms aux sonorités pour moi amusantes comme le Cucherou qui me fait penser à Cul du Monde ou Bastogne qui me fait penser au Baston dans les westerns. Voilà.
Bon, ces femmes vont résister, Antoinette Richner. Dans votre récit, elles vont résister, elles vont porter la parole. Il y a un extrait de votre livre qui est très révélateur, qui dit tout finalement. C'est vers la page 240, même 242 pour être précis. Et c'est Daniel Pénac qui a accepté de nous lire un extrait de ce livre. Il va lire cet extrait sur la musique d'Armand Amar et Levon Minassian, une musique que vous avez choisie.
Notre mode de vie, soit, représentait une insulte à la terre. Mais que dire des directeurs ou actionnaires de firmes grassement payés pour programmer les pollutions, les réchauffements ou dévaster les écosystèmes entiers? Voulons-nous vraiment réduire cette différence au simple fait que nous ayons été trop nombreuses à consommer? Du reste, pourquoi nos descendants, les enfants d'après 2023, devraient-ils porter des fautes commises avant leur venue au monde? Et pourquoi prolonger ce mea culpa à l'heure où la mort nous menace toutes, qui que nous soyons? Et si nos nouvelles façons de faire pouvaient encore inverser le cours des choses, redonner fertilité aux aires nécrosées? Élargissons les conceptions de ce pronom dont nous sommes en train de faire usage. Unissons les différents « nous » du monde et serrons-nous les coudes.
Voilà, la lecture de Daniel Pénac avec Antoinette Richner, qui est très émue, évidemment. Trois libraires. Antoinette, on va continuer sur l'émotion avec les trois libraires qui ont lu votre roman, qui vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. La Suisse, la France ou la Belgique, on commence par qui?
La France, volontiers.
Allons-y avec Sophie Todescato.
Ah oui, c'est très bien. C'est un livre très fort. Ça parle de nous, ça parle de demain, du possible. C'est un roman qui arrive à nous faire croire à son réalisme grâce à sa construction et puis aux voix des personnages que j'ai trouvé vraiment juste et puis tenu de bout en bout. Tout est vraisemblable dans ce scénario. Tout est crédible, tout semble possible, et c'est une lecture dont on ressort vraiment ébranlé.
La Suisse, ça vous convient ?
Allons-y.
Claire Renaud en pleine forme. Claire, avez-vous aimé ce livre ?
Oui, d'abord j'ai apprécié le rythme grâce aux différentes narrations, et puis surtout ce chant épique des femmes qui donne un goût très théâtral et entraînant. C'est un livre qui est dense, riche en questionnements comme l'humanisme, l'écologie ou l'immigration et encore il y en a d'autres. Et ce que j'ai apprécié, alors contrairement à vous Emmanuel, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des réponses. Elle propose des réponses et c'est ça qui rend le livre intéressant.
Pas tant que ça, moi je trouve. Mais bon, c'est votre point de vue.
Bah, non. Elles sont solidaires, elles se mettent ensemble, elles essayent quand même de continuer.
C'est une utopie, disons. Oui.
Voilà. Ah, mais j'y crois à l'utopie.
Vous avez raison. Antoinette, vous voulez nous départager?
Il y a beaucoup d'idéalisme, en tout cas. Je suis d'accord sur l'utopie. Et puis, les réponses, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que jusqu'à la fin, il y a des poches d'humanisme qui suffisent.
Mais ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que l'humanisme, ça peut être une solution aussi.
On n'est pas dans quelque chose de sans issue. On n'est pas sur la fin de l'humanité.
Bah, un peu quand même.
Non, l'humanité ne disparaît pas.
Non.
Sans vouloir.
Pas complètement.
Raconter à quoi.
Allez, la Belgique avec Déborah Damblon, qu'en pensez-vous?
Eh bien, moi, c'est justement le rythme de votre roman qui m'a déstabilisée. Parce que d'un côté, on a les situations terribles que vous mettez en scène, avec les drames que vivent votre très très beau personnage de femme, d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, on a une écriture presque paisible et gentiment descriptive qui développe votre univers très en détail. Et on est en même temps dans le récit de genre, avec une situation dystopique, et puis dans la lecture presque rassurante d'un roman réaliste et presque quotidien. Et moi, ça m'a demandé un grand écart cérébral.
C'est vrai qu'il y a un grand écart cérébral à faire. Vous parlez beaucoup d'écologie, Antoinette Richner. On ferme les yeux, hein, c'est ce que vous décrivez au début. On a continué comme ça à croire que la nature allait se régénérer malgré nos prélèvements abusifs. Il y a ces pêcheurs, par exemple, qui gardent confiance en l'avenir et qui croient que les cabillauds, victimes de la surpêche, vont revenir. Ils y croient dur comme fer.
Ils y croient dur comme fer. Je pense qu'il est quand même temps d'intégrer que certains seuils sont irréversibles et que sans même avoir peur de l'avenir, il faut déjà prendre acte des conséquences de notre comportement sur ces dernières 40 années. Je pense que certains pas sont d'ores et déjà franchis qui sont malheureusement irréversibles, oui.
Pierre Gagnère, vous qui cuisinez beaucoup de poissons, vous faites attention justement aux poissons que vous choisissez pour vos recettes en fonction de la surpêche, par exemple ?
Je vais vous répondre de façon plus générale. Lorsque j'ai commencé à cuisiner sérieusement, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, il y a une image qui m'a hanté lorsque j'étais enfant. C'était un enfant qui mourait au Biafra. C'était la première fois que nous étions, enfant occidental, confrontés à ça. Et ce métier que je n'ai pas choisi, que ma famille m'a imposé et qui ne me plaisait pas, et puis lorsque je me suis retrouvé au pied du mur, je me suis dit, finalement, ce que tu fais, c'est du superficiel, c'est superflu, on peut vivre avec un verre d'eau et de figues. Et donc, la façon dont j'ai abordé ce métier, qui, je le répète, ne me plaisait pas, je me suis dit, tu vas en faire quelque chose qui procure de l'émotion, qui procure des sentiments, qui donne...
On en parlera tout à l'heure, Pierre, mais pour répondre à la question, est-ce que vous faites attention aux aliments?
Oui, mais je dirais sur un plan
oui
moral.
Ou non.
Oui, évidemment. Bien sûr, je fais attention, mais je fais attention depuis toujours.
Oui, c'est ça.
Parce que ce que dit madame, moi, petit cuisinier, je le sens depuis longtemps. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis dans une impasse, sans en être dans une impasse, parce que je pense que mon travail, je le fais honorablement et sérieusement, et avec beaucoup de moralité. Et avec une responsabilité aussi d'entrepreneur.
Bon, on va parler dans un instant. Merci beaucoup Pierre Gagnère. Merci Antoinette Richner. Votre roman Après le monde est paru chez Buchet-Chastel, un livre essentiel qu'il faut lire évidemment. Merci beaucoup Antoinette. À bientôt.
Merci à vous.
Dans un instant donc Pierre Gagnère pour un livre de cuisine magnifique. Daniel Pénac, notre grand témoin, est toujours en plateau avec nous. Mais avant, dans la librairie francophone, voici Marie-Flore qui n'a pas envie. C'est le titre, pas envie. Et pourtant, c'est pas si mal. Écoutez.
Tu sais, ça fait des semaines que j'y pense. Des semaines qu'entre nous y a rien qui avance. Et t'as beau avoir de langue sous la peau, j't'ai pas dit chérie, mais t'es loin, très loin d'être au niveau. Avec toi ça part, mais j'pardonne dans tous les sens. De toute façon y a rien qui compte à part ce que tu ressens. Et t'as beau savoir me parler comme il faut, j't'ai pas dit chérie, mais t'es loin, très loin d'être au niveau. J'ai pas envie. De me passer passer de lui. Pas envie d'embrasser, d'enlacer, d'en aimer un autre que lui. J'ai pas envie de me passer de lui. Comment éteindre l'incendie, tout s'anime, tout s'envenime à chaque fois qu'il me sourit. Quand je t'imagine là dans mon ventre, ça me relance. C'est juste que j'ai pas eu ma dose et qu'à l'évidence t'es pire qu'une meuf qui fait son incomprise. Et tu vas me serrer la main et plus me faire la bise. Mais de la distance, des kilomètres de conséquences. C'est blanc ou noir quand tu veux, je t'apprends les nuances. T'es pire qu'une meuf qui fait son indécise. Et je compte plus les fois ou parfois, ouais, parfois tu me grises. J'ai pas envie de me passer de lui. Quand l'incendie tout s'anime, tout s'ennuie à chaque fois qu'il me sourit. J'ai bien senti qu'entre nous y'a comme un court-circuit. Comment éteindre l'incendie, tout s'anime, tout s'ennuie à chaque fois qu'il me détruit. Chaque fois qu'il me détruit, chaque fois qu'il me détruit, chaque fois qu'il me détruit. J'ai pas envie de me passer de lui. Pas envie d'embrasser, d'enlacer, d'en aimer un autre que lui. J'ai pas envie
c'était Marie-Flore avec Pas envie.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Pierre Gagnaire est un chef multi-étoilé réputé dans le monde entier. Il est sur notre plateau aujourd'hui. Vous publiez un livre génial, Pierre. Les copains d'abord, livre de recettes chapitrées grâce à des lieux de vie. La campagne, la mer, la montagne et la ville. On ne fait pas la même cuisine en fonction du lieu où on est ?
Ah non, surtout.
Ah non, surtout pas.
Non, c'est même pas surtout pas, c'est... Si on a un peu de sensibilité, ce que je suis une éponge, je suis quelqu'un qui travaille et qui vit à l'instinct. Les ondes ne sont pas les mêmes, la chaleur n'est pas la même, les produits ne sont pas les mêmes. Il y a la façon d'aborder la cuisine, elle, effectivement, elle se transpire différemment, ouais, en fonction des lieux, ouais, où nous sommes.
Bon, la, ouais, campagne, c'est la terre, ouais, Pierre. Les souvenirs aussi avec votre grand-mère, ouais, et surtout les grandes tablées. Mmh. Et vous racontez en introduction une soirée de réveillon, mmh, que vous avez dû préparer dans l'improvisation. Mmh. Vous étiez tout jeune cuisinier. Mmh. Et c'est en partie cela qui vous a donné le goût de cuisiner pour les autres, ça entre pas, copains, pour
ça,
les copains.
Ça m'a surtout, ça m'a prouvé que ce métier pouvait avoir du sens, parce que nourrir les autres, et aujourd'hui plus que jamais, nourrir l'autre, c'est un acte d'amour. Et ce que j'ai pas connu quand j'étais enfant, parce que ma mère cuisinait pas du tout, et je me suis rendu compte le pouvoir. Enfin, c'est pas le pouvoir, c'est la possibilité d'aller vers les autres et la possibilité de créer du lien.
Ouais.
C'est vraiment, et d'ailleurs, ce qui nourrit toute ma vie de travail, c'est le lien que ça crée, bien sûr, avec les clients, mais aujourd'hui, peut-être encore plus, avec les gens, les jeunes gens avec qui je travaille. Ouais. Et ça, j'ai des équipes importantes et qui sont extraordinaires. Et d'ailleurs, je pourrais aussi parler de la valeur du travail. Si on porte un projet, même culinaire, eh ben, ça crée de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse. Enfin, tous ces mots dont aujourd'hui on se réclame.
Ouais. Et c'est un peu du bricolage, la cuisine, vous dites aussi. On ajuste les choses, on fait avec ce qu'on a parfois.
Bien sûr.
On traficote. Voilà. L'idée, c'est de trouver l'équilibre des saveurs.
Oui, puis, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'économie, de produits. Moi, j'ai jamais été un adepte du poisson carré ou des parures. Je viens d'un endroit modeste. Je viens de la campagne, je viens aussi d'une ville modeste qui s'appelle Saint-Étienne. Et donc, j'ai appris à respecter le... Quand on fait un jus de citron, ben on presse vraiment le citron, puis on a récupéré l'écorce. S'il reste le demi-citron, bon, on va le garder précieusement et on s'en servira le lendemain. Donc, c'est aussi une cuisine... Même si j'ai une cuisine très généreuse et très...
Élaborée, très, quand même.
Ça, je revendique.
Oui.
Mais... on jette rien ou on jette le moins possible.
Ouais, ouais. Voilà. Il faut aussi imaginer. Et dans les recettes de ce livre, on constate à quel point vous êtes créatif, Pierre Gagnaire. Vous êtes un vrai grand chef. Farcir une tomate avec de la pastèque, des œufs, de la roquette, des champignons, du yaourt et de la coriandre avec des pêches de vigne, accompagnées d'un assaisonnement précis, il faut oser. Et ça peut être raté, vous le dites ça. Je peux rater des recettes si je n'arrive pas à trouver l'équilibre.
Je le revendique, hein.
Vous en avez raté des plats dans vos restaurants ?
Plein.
Servis ou pas ?
Bah, oui, sans doute. Oui. Bah, évidemment. Non, mais je revendique l'émotion avant tout. Le ratage, il faut que les gens l'acceptent. Alors, aujourd'hui, il y a de moins en moins de ratage parce que mon histoire, elle est de plus en plus élaborée.
Ouais, ouais.
Elle est de plus en plus...
Il y a des protocoles.
Ouais,
des calibrages.
On va dire comme ça, mais ça reste quand même quelque chose. Je suis, finalement, au sein des gens avec qui je travaille, je suis peut-être le plus fou de tous.
Ah, ça, c'est sûr, sans doute. Voilà. Avec tout ce que vous avez fait, Pierre. Et tous les restos dans le monde, vous êtes le plus fou de tous, c'est sûr.
Mais je m'amuse bien. Et puis surtout que j'ai l'impression de créer autour de ce que j'ai imaginé du plaisir et de la douceur. Voilà.
Il faut goûter quand on fait la cuisine, on peut le conseiller à tous ceux qui nous écoutent. Quand vous faites un plat, quand vous préparez un plat, au fil de la recette, on ajuste et c'est très important de goûter. C'est ce que vous faites, hein, vous, c'est comme ça que vous arrivez à faire les choses.
Oui, enfin, c'est récent, hein.
Ah, parce oui.
Quand je cuisinais vraiment, vraiment moi-même, tout, de A à Z, je goûtais jamais.
Ah bon ?
Maintenant, je goûte parce que justement, je travaille un peu par délégation. Donc aujourd'hui, effectivement, je goûte plus qu'avant. Ouais. Mais longtemps, j'ai pas goûté.
Il paraît que dans votre premier restaurant à Saint-Étienne, vous faisiez attendre les clients pour leur faire des plats qu'ils n'avaient pas commandés, c'est vrai ça ?
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils commandaient un plat, vous arriviez avec autre chose une heure après.
Oui, l'anecdote qu'on m'a racontée il n'y a pas très longtemps, je recevais moi-même les gens, je leur disais non, ne regardez pas la carte, c'est pas la peine. Je leur disais, je vais vous faire ça, ça et ça. Et je repartais en cuisine, j'avais tout à fait oublié ce que j'avais dit. Et donc, j'en savais autre chose. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait faillite. Hein.
Oui.
Non, parce que... je vais le dire parce qu'il faut quand même le dire. Moi, la cuisine, pour moi, c'était une thérapie. Voilà. Et je sais que c'est là que je me mets du côté des artistes, parce qu'effectivement, j'ai pas vécu la cuisine comme un métier. Et je le vis toujours pas comme un métier. Alors maintenant, ça y est, j'ai réglé beaucoup de failles. Il y a beaucoup de choses qui ont été réglées dans ma vie personnelle, parce que personnel, professionnel, tout ça se mélange. J'ai pas de vie, j'en ai qu'une. Et ça passe par ce foutu métier qui m'a... C'est dur, ouais, épuisant, ouais, mais qui me donne beaucoup de satisfaction. Et qui m'a surtout permis d'aller vers les autres. Voilà. Et de rencontrer des gens formidables.
Ça vous a abîmé la cuisine à un moment, Pierre Gagnère?
Ça a failli m'engouffrer. Oui. Oui, ah bah oui, j'ai failli en mourir hein, de cette histoire. Oui, oui, oui. Oui, mais ça m'a...
Parce que vous en avez fait trop?
Je sais pas si j'en ai fait trop. J'avais pas le choix. J'étais dans un tunnel. Il fallait au bout du tunnel. Il fallait que je produise donne du sens à ma vie, quoi. Là. Ouais. Et ça a été une construction personnelle.
Ouais, ouais.
Une construction identitaire. Donc, qui était aussi des choix personnels, douloureux. Qui m'ont obligé à construire ma vie différemment. Voilà, donc à vous de comprendre.
Bah merci. Bon, on va voir si les libraires ont compris, puis on va parler de la mer aussi. On va parler de la mer, parce que c'est important, la mer, la Bretagne, le poisson, c'est la grande spécialité de Pierre Gagnère aussi. Deux libraires ont lu votre ouvrage, La Belgique et le Canada, la gourmande Déborah Damblon à Bruxelles a dû adorer ce livre, Déborah.
Je l'ai adoré, Emmanuel, bien sûr, vous me connaissez, bien sûr, parce que je suis gourmande, mais aussi parce que c'est un livre que j'ai trouvé réconfortant, je l'ai trouvé chaleureux, j'ai eu l'impression que c'était vraiment un livre de copains, pour les copains, pour la famille, et qu'on en faisait partie, et je trouve qu'il faut être vraiment difficile pour pas trouver son compte dans le livre.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai aussi... C'est vrai, hein. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que d'un côté, il peut nous faire rêver avec des plats très élaborés, peut-être un peu longs et compliqués à préparer, mais en même temps, il se met à notre portée avec des recettes plus simples. Donc c'est une réussite, c'est aussi joli à feuilleter qu'agréable à utiliser.
Josiane Letourneau pour le Canada, êtes-vous d'accord?
Ben oui, Pierre Gagnère pourrait dire qu'il a donné à une fille qui n'achète jamais de livres de cuisine, alors j'en achète jamais, le goût d'en posséder un. Pour moi, c'est un sans faute. J'aime ce qui est proposé, j'ai envie d'essayer tout plein de recettes. Et les petits textes qui ponctuent ce parcours gourmand témoignent d'une grande passion, d'une belle honnêteté et inévitablement de la magie qui s'opère autour d'une table. C'est très, très bien fait.
Bon, il est content, Pierre Gagnère. Il a les yeux qui pétillent.
Salut Martin Picard de ma part.
Oui, avec plaisir.
Le pied de cochon. c'est un de nos anciens.
Au Québec.
Ah, c'est un gars extraordinaire.
Bon, très bien.
C'est une star au Québec.
Bon, on va vous laisser entre vous. Vous connaissez les mêmes personnes. Bon, j'ai un petit cadeau pour vous, Pierre Gagnère. On vous a demandé d'ailleurs quelle est la bande originale de votre livre. Sur quelle musique, finalement, on pourrait déguster ces plats ou même lire votre livre? Et vous nous avez dit Chet Baker. Et ça tombe bien parce que Chet Baker, c'était un artiste incontournable et l'un des préférés de Cabu. Je pense beaucoup à lui parce que c'était notre ami, mon ami ici. Il est plus là, vous le savez, en raison de ces minables barbares qui l'ont assassiné en 2015. On va écouter Chet Baker en pensant à lui et pour vous, Pierre Gagnère. Pourquoi Chet Baker, Pierre Gagnère? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique?
C'est silence.
Ouais.
C'est silence. Il y a un phrasé qui est unique et je suis un inconditionnel de ce musicien parce qu'il a la technique, il a la retenue, il a la sensibilité, enfin, il a tout ce qu'on aime dans la musique. Voilà.
Il est un peu entre mer, campagne et montagne, hein. D'ailleurs on pourrait l'écouter un peu partout. La mer, vous en parlez dans ce livre, Pierre Gagnère, avec de la cuisine saine, le filet de rouget façon minestrone par exemple. Il y a des recettes comme ça, très simples, très en hommage à la mer, je dirais.
Oui, mais de toute façon, toutes les recettes, elles sont en hommage au produit. Et c'est pour ça que le produit, c'est pour ça que j'ai eu du mal à répondre à votre question tout à l'heure d'écologie, parce que le produit, moi, c'est dans mon ADN, je le respecte. Mais par contre, qu'on me dise pas que la cuisine, c'est trois goûts. C'est un peu une tendance. Moi, quand c'est bon, ben, on peut empiler. Et moi, j'aime bien empiler, mais aussi, parfois, mettre juste un bout de rouget, comme ça, avec un filet de l'olive, presque cru, d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà. Non, l'important, c'est comme les mots. On peut faire un livre sublime avec quatre livres. lignes et puis on peut faire un livre sublime qui fait 2000 pages.
Et on peut faire un plat sublime avec 3 ingrédients.
Absolument. Ouais. Tout à fait,
ouais. Daniel Pennac, vous êtes un gourmet, vous ?
Je suis sûr que si j'étais invité par Pierre Garnier à manger, là je serais un gourmet.
C'est un appel ça,
Daniel. Je ne suis pas vraiment un connaisseur, non. Ouais.
Non.
Mais il ne faut pas être connaisseur, il faut juste...
Non, je veux dire que l'occasion, chez moi, se présente assez rarement d'être devant quelque chose d'exceptionnel. Ça m'est arrivé, et l'effet, c'est la stupeur. Tout d'un coup, on a dans la bouche quelque chose... Il y a une espèce d'amplitude comme ouais. ça me surprend toujours beaucoup.
Pierre Gagnère, c'est vrai ça, ce qu'il dit. Parfois, quand on a un plat incroyable et on le retrouve chez vous, quand on a la chance de manger chez vous, il y a cette stupeur, cette fascination soudaine, avec les saveurs qui remontent et avec une association finalement de goûts auxquels on ne s'attendait pas forcément.
Oui, d'ailleurs ça peut déstabiliser les gens, parce que la nourriture, pour chacun d'entre nous, elle est toujours liée à notre enfance.
Moi, elle est liée aux souvenirs,
oui. Ah oui, toujours. Mmh. Donc, moi, par exemple, j'ai un client qui était d'Afrique du Nord et je lui ai fait un soufflé au safran et qui avait plutôt du succès il y a quelques années. Hein, il a pas du tout. Il était angoissé par ce plat.
Ouais.
Parce que pour lui, le safran, c'était pas ça. Le safran, ça peut pas être un soufflé au safran. C'était autre chose. Ouais. Hein, il venait d'Afrique du Nord. Et voilà. Et pour moi, c'est un exemple assez intéressant. Parce que on est sur un fil, hein, rouge, dans ce que l'on propose. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu, moi, tant de difficultés à imposer mon travail. Parce qu'aujourd'hui, j'ai du succès. Mais j'ai eu des années de salle vide. Je vendais rien. Je vendais 3 livres. Par an, quoi. Non, mais ça vous fait rire.
Bon, ça va beaucoup
moi,
mieux.
C'était souffrant.
Non, mais ça me fait rire parce que vous êtes rayonnant, Pierre Gagnère, aujourd'hui.
Oui, ça va.
Et vous êtes une référence mondiale, donc l'histoire, elle est jolie quand même. Elle est belle, cette histoire.
Oui.
Merci beaucoup, Pierre. Les copains d'abord. 80 recettes faciles et conviviales, c'est paru chez Solar. Vous êtes un rêveur, Pierre Gagnère?
Totalement rêveur.
Alors, vous allez être servi dans quelques minutes avec Daniel Pennac tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va vous faire découvrir un immense artiste comorien avec un album magnifique. Et bonjour Elias.
Et bonjour.
Un immense artiste comorien, parce que quand j'ai écouté votre album cet été, je l'ai trouvé majestueux cet album-là. Il est sorti au mois de septembre, il est actuellement disponible. Vous êtes né dans l'archipel des Comores, toutes les influences comoriennes sont dans votre musique, et c'est un voyage pour les auditeurs francophones. Il est voulu comme ça ce disque ?
Tout à fait. En partant des gens de la pochette jusqu'à l'audio,
ouais.
On était parti sur la diversité, oui.
Vous racontez une partie de l'histoire des Comores aussi, avec vos chansons, l'indépendance de 75, la politique actuelle, les liens avec la France aussi.
Tout à fait.
C'est compliqué tout ça, à démêler.
C'est du « je t'aime moi non plus ». Voilà.
Vous le ressentez comme ça, vous ?
Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait.
Donc, « je t'aime moi non plus ».
Ah oui, avec la France, c'est ça. Donc, moi je suis né en 78 et la France est toujours là. Et n'est pas là aussi, et c'est des va-et-vient, c'est des coups d'état, c'est des « oui, c'est pas moi, mais c'est l'autre ». Ah oui, viens dans mes bras, ah oui, on va vous aider, ah oui, mais voilà. C'est tout le temps des pages comme ça qui se tournent, ouais. Mais ce sont les mêmes en fait.
C'est pour ça que votre premier album, vous l'aviez enregistré à La Réunion, pour être à mi-chemin entre la culture française et aussi, comme on le sait à La Réunion, le métissage, cet aspect cosmopolite de l'île.
Oui, alors l'enregistrement, je l'ai enregistré à Mayotte, c'est encore beaucoup
Mayotte.
Plus compliqué.
Mais vous étiez à La Réunion aussi avec des artistes.
Je l'ai mixé à La Réunion, oui, justement. Ça. Donc voilà, moi je venant des Comores indépendants, arrivé sur le territoire comorien français,
ouais.
On ne sait pas.
Ouais.
Et c'est là que
À Mayotte.
Donc,
et après vous êtes arrivé à La Réunion.
À La Réunion, oui.
Quand vous étiez enfant, à chacun de vos anniversaires, vous receviez un instrument de musique. C'est comme ça que vous avez appris la musique, Elias?
Oui, appris, c'est comme ça que j'ai touché des instruments et ressentir l'échange, le son qui sortait de chaque instrument. Mais mes parents, en fait, ne faisaient pas exprès. C'est même moi qui disais à la fin que, en fait, vous m'avez offert ça. Et ils étaient surpris que je deviens musicien après.
Vous dites, quand on a des choses en soi, elles ressortent à un moment.
Ah oui, tout à fait. C'est comme la cuisine. Moi, j'adore la cuisine.
Donc, et comme là... les rêves de Daniel Pennac. On va parler de vos rêves tout à l'heure. C'est une phrase qui devrait résonner en vous, ça, Daniel. Quand on a des choses en soi, elles ressortent à un moment.
Les rêves, on peut difficilement les retenir, mais on peut les oublier. Et moi, j'ai décidé de m'en souvenir, ouais. C'est-à-dire de tenir le journal de mes rêves toute ma vie.
Ah, c'est beau, ça.
Bon, on va rêver avec vous, Elias, avec un titre extrait de cet album. Je vous laisse vous installer en direct dans le grand studio de la librairie francophone. Vous allez interpréter Nyora, qui signifie deux choses. Étoile, vous me l'avez dit tout à l'heure avant l'émission, l'étoile, mais aussi avoir soif. Alors, c'est étonnant, d'ailleurs, comme interprétation. Mais c'est l'étoile et la sensation de soif que vous allez chanter. Votre nouvel album, Amani Way, le chemin de la paix en français, est disponible. Vous avez la guitare en main, avec une jolie bretelle bariolée. Et c'est à vous, Elias.
Sijani wimbi ele bora linu Wenda mwendo mauduli ufai Dunia isigori maudu uke mwenje Baho Wamuja na wanyahobo mwana na 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 bebe bebe kalima La holisike na madhara Bikalima La holisike na madhara Henidu jawabira uo msomo mwana Mwendo maudu Amini wanza odunga nyora ya haho Sena Suite ref po mwana na 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 bebe bebe Kalima La holisike na madhara Kalima, la holisike na mavwara.
C'était Elias que vous pouvez tous applaudir dans notre studio avec Nyora, titre qui figure sur le nouvel album Amani Way. Merci beaucoup Elias. Merci, posez votre guitare, venez dire au revoir quand même. Merci beaucoup.
Marhaba.
Avoir soif et l'étoile, ça veut dire ça les deux?
Oui, quand je dis en grand comorien, Gamina Nyora,
ouais.
Littéralement ça veut dire j'ai des étoiles, mais ça veut dire j'ai soif.
Ouais.
Et Nyora tout court veut dire les étoiles.
D'accord. Donc, merci Elias, merci pour ce cadeau musical.
C'est moi.
À très bientôt, merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Alors Daniel Pénac, vous publiez La loi du rêveur chez Gallimard, un livre étrange qui convoque vos rêves, qui rend hommage à Fellini, qui raconte l'amitié fusionnelle, mais tout est à moitié vrai ou tout est à moitié faux, c'est comme on veut, on ne sait pas où on va et du coup, on ne peut pas raconter grand-chose sans gâcher la surprise pour vos lecteurs. C'est un rêve ce livre, Daniel. Ça le fait rire.
Je suis très heureux que vous ne sachiez pas où vous allez.
Ouais, vous êtes espiègle, là, Daniel.
En effet, il est impitchable. On ne peut pas le résumer facilement. Il y a 36 000 façons d'y entrer. Le narrateur, qui est peut-être moi-même...
Ou peut-être pas.
Ou peut-être pas. Il lui est arrivé quelque chose de très étrange dans son enfance. Il a subi une inondation de lumière. Il y a la veilleuse de quand il était petit, on sait qu'il pof, a pété, et la lumière liquide s'est écoulée de cette veilleuse et a inondé sa chambre. C'était une lumière sans rayon, une lumière qui avait cessé de rayonner, un peu triste comme ça, complètement affolé évidemment, il sort de sa chambre, il se précipite dans la maison, et là, à sa grande stupeur, il s'aperçoit que la maison entière est inondée, que le téléviseur lui-même éventré lâche comme ça une espèce de lumière multicolore où les visages se distendent silencieusement. Il cherche ses parents, n'y sont plus, son meilleur ami qui dormait dans le lit jumeau à côté du sien n'y est pas non plus. Il décide de fuir cette maison et de sauter par la fenêtre de ses parents en ville. Et là, il s'aperçoit que l'inondation est absolument générale.
Voilà, à cause d'un barrage qui aurait cédé,
sauf que là c'est de la lumière. On ne sait pas exactement.
Et ça c'est un rêve, ça on peut le dire déjà.
Parce que c'est, oui, on peut dire, la question est de savoir... Comment est-ce qu'un phénomène pareil peut avoir lieu et comment m'en suis-je sorti ?
Non, mais ça, c'est absurde, Daniel. La lumière qui coule, on sait que c'est un rêve.
Pas quand vous êtes dedans.
Oui.
Quand vous êtes dedans et que la lumière coule, vous êtes absolument persuadé de la réalité de la chose, puisque ça vous arrive. C'est la particularité des rêves. La particularité des rêves, c'est que ils imposent un sens, une vérité d'être à nous au moment où nous les faisons, qui nous sidère absolument quand nous nous réveillons. N'empêche que quand on y est absolument.
Alors, ce sont des histoires d'enfance, ça, Daniel. Vous racontez d'ailleurs votre histoire avec votre meilleur ami Louis. Je vais pas trop en raconter, mais on a l'impression que vous le fantasmez, finalement, ce meilleur ami. Parce que l'amitié, elle est fusionnelle. Elle est magnifique dans votre histoire. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je dévoile trop de choses, mais vous me mettez dans l'embarras, hein, Daniel.
Vous dites ça parce que vous avez lu le livre en entier.
Oui, bah oui, quand même, un minimum, non? Comme tout le monde.
Mais le principe, c'est que dans la continuité du livre, le lecteur doit se laisser porter à l'état des lieux tel qu'il est au moment où il est à telle page et telle ligne, et se laisser aller, puis petit à petit, en effet, le sens s'installe. Ouais. Hein,
mais les histoires d'enfants, Daniel Pénac, elles relèvent du rêve aussi. Ces enfants-là, ils imaginent des histoires, ils rêvent des réalités.
Ben, ils sont en construction, ce sont des enfants. Ils sont en construction, les enfants sont en construction par le récit. Les enfants commencent très vite, ils racontent des histoires. Mais les adultes aussi. Qu'est-ce qu'un amour sans une histoire d'amour ? Dès que deux adultes se rencontrent, dès le lendemain, ils commémorent leur rencontre de la veille. Il se la raconte, il dit « Tu te souviens, hier, quand tu m'as embrassé pour la première fois ?» Immédiatement, on est dans le récit. Vivre, c'est construire des récits dont on espère qu'ils justifieront notre vie. Mais ça date de l'enfance jusqu'à la maturité.
Mmh. Et vous êtes un dormeur, lapsus, mais c'était ça en fait. Vous êtes un rêveur dormeur ou un rêveur éveillé, Daniel Pénac ?
Je suis, quand je dors et je rêve. Mais comme je tiens le journal de mes rêves depuis très longtemps, il y a une espèce de curiosité seconde qui s'éveille dans le sommeil. Par exemple, il m'arrive de me dire, tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain.
Ouais.
Alors que je dors. Et de la même façon, les rêves sont quelquefois si prégnants que dans la journée, je mets un certain temps à me départir d'une certitude. J'ai fait des rêves récurrents sur une maison en Bretagne que j'adorais absolument. Cette maison était si présente, j'y étais si bien, qu'au réveil, je me disais, mais elle existe, elle m'appartient, elle est quelque part. Et il me fallait vraiment plusieurs heures pour que ça décante.
Ouais.
Et comme c'était un rêve récurrent, quand je retrouvais la même maison, 3 semaines plus tard, dans le même rêve,
dans le
je me disais, mais comment ai-je pu croire une seconde que cette maison n'existait pas?
Un rêveur, c'est un enfant qui ne grandit pas, vous le vivez comme ça, vous?
Non, un rêveur, c'est un homme ou une femme qui rêve et qui, en l'occurrence, pratique une fonction vitale. Si vous ne rêviez pas, vous mourriez.
Et vous savez qu'il y en a qui rêvent pas, qui se souviennent pas de leurs rêves.
Ah, ça c'est autre chose. Ouais. Se souvenir ou ne pas se souvenir des rêves, c'est presque une affaire d'habitude. Moi, je m'en souviens parce que je les note.
Ouais.
Si je ne les notais pas, je ne m'en souviendrais pas. Et dès qu'on commence à les noter, non seulement on s'en souvient, mais il arrive qu'à l'intérieur même du rêve, on se dise, tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain matin.
Ouais. Et ça peut faire peur, les rêves aussi. Hein.
Bah, bien sûr, ouais, c'est ce qu'on appelle un cauchemar.
Marion Cotillard m'avait dit qu'elle avait peur de ses rêves quand elle avait tourné Inception. Vous l'avez vu, ce film Inception?
Oui.
Bah, c'est un peu ça, votre livre, Daniel Pénac.
Oui.
On n'y comprend rien à un moment.
Mais c'est-à-dire que les rêves vous font peur parce qu'ils remplissent tout l'espace mental. Dans un rêve, il n'y a pas de place pour la rêverie. On ne rêvasse pas dans un rêve.
Ah oui.
On est entièrement coincé entre des images qui procurent des sensations et il n'y a de place pour rien d'autre. Donc c'est forcément très oppressant, ou d'ailleurs très réjouissant si c'est un rêve heureux.
Bon, les trois libraires ont lu votre livre, Daniel Pénac, Le Canada, la Suisse et la France. Commençons par le Canada, ça vous va Daniel? Vous adorez le Québec, je sais, oui, vous y allez souvent au Salon du Livre de Montréal notamment, on a fait plein d'émissions ensemble là-bas. Allons-y, Josiane Letourneau.
Alors, il n'y a qu'à travers la fiction que j'accepte avec plaisir de me faire mener en bateau. Et le rêveur, voire le grand metteur en scène du rêve dans ce roman ne m'a pas déçue. Je me suis égarée, confuse mais heureuse de l'être, dans des tableaux fabuleusement fous, qui finissaient par contre parfois abruptement dans certains chapitres un peu trop courts. En fait, le trésor de votre imagination est tel que j'aurais préféré ne pas être amenée à quelque notion de réalité ou de vérité que ce soit. J'en aurais pris davantage du rêve.
La Suisse avec Claire Renaud, êtes-vous d'accord?
Oui et non. Ah. Moi, je me réjouissais de vous lire parce que, et le rêve, et Fellini, et ben, je trouve ça super et je me réjouissais de lire ce livre.
Et Daniel Pénac aussi.
Oui, parce que j'aime beaucoup vos livres. Mais la magie, là, pour ce livre, n'a pas opéré avec moi. Je ne sais pas si c'est parce que, pour moi, on ne peut pas parler de rêve dans un roman, étant donné qu'écrire, c'est rationnel et que le rêve est irrationnel par définition, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas collé pour moi dans votre livre.
Ça, c'était l'avis de Henry James aussi, qui disait « Ne racontez jamais vos rêves. Dans un roman, vous perdrez 10 lecteurs par rêve. » Moi, peut-être plus encore.
Oui, parce que vous l'avez conseillé à vos élèves en plus, ça. Quand vous étiez
de
enseignant.
Noter leurs rêves.
Non, oui. Vous leur avez dit de ne pas s'en sortir par la porte des rêves. Oui. Quand vous demandiez de faire des rédactions, vous disiez il faut écrire le réel, mais pas raconter les rêves. Vous le dites d'ailleurs dans ce livre-là.
Oui, c'est-à-dire que je leur ai appris deux choses distinctes. J'aurais appris à noter leurs rêves quand ils en faisaient, ce qu'ils faisaient tous les matins. C'était une espèce d'exercice libre. Et je leur interdisais de sortir par la porte des rêves dans les exercices académiques.
Oui.
Hein, quand on leur demandait de faire une rédac très sérieuse pour le BEPC, bon, ça ne lui sait pas d'essayer d'embarquer le correcteur dans des rêves. Il se serait fait taper dessus.
Et là, c'est ce que vous avez fait en fait dans un livre.
Absolument.
Voilà. Je peux me mettre à leur place parce qu'il y en a qui doivent vous en vouloir. Je vais me faire le porte-parole quand même. Parce que vous nous avez interdit de raconter des rêves. Et maintenant, Daniel Pénac, monsieur, hein, on dit, pour un prof, vous faites un livre avec des rêves dedans. Et vous nous décevez, monsieur Pénac. On avait raison finalement d'aller dans les rêves. C'était honteux de nous imposer ça.
Je vous ai d'abord appris à les noter. Donc je vous ai appris à vous en souvenir. Je ne peux pas dire que je suis allé jusqu'à vous apprendre à rêver puisque vous rêviez. Mais finalement, il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans la rue, j'ai rencontré un vieux monsieur qui continuait, qui avait été mon élève, et qui continuait de noter ses rêves. Oui, il tenait le journal de son rêve, de ses rêves, oui.
Bon. Peut-être qu'il ne vous en voudra pas, lui. Allez, on y va avec Sophie Todescato en France.
Oui, c'est un livre inattendu, effectivement, dont la narration emprunte bien plus aux règles du rêve qu'aux attendus du roman. Et donc, il faut, pour l'aimer, accepter les lois du rêve, c'est-à-dire de sauter d'une histoire à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'être pris dans des ellipses. On retrouve la fantaisie, qui est la caractéristique des livres de Daniel Pénac, mais aussi, je trouve, quelque chose de plus mélancolique, de plus implicite. C'est un livre, effectivement, énigmatique, mais qui ne manque pas de charme.
Non, c'est vrai. Voilà, l'avis de nos libraires un peu partagé, Daniel Pénac, mais ça ne m'étonne pas parce que ça va surprendre beaucoup de lecteurs, La loi du rêveur chez Gallimard. Il y a cet hommage à Fellini dans ce livre, Daniel, un hommage d'ailleurs très large, hein, vous en parlez tout au long du livre, c'est presque un fil rouge. Fellini, grand rêveur qui notait et dessinait ses rêves, il était d'ailleurs dessinateur avant d'être cinéaste, et d'ailleurs en 1939, il arrive à Rome pour devenir dessinateur de presse, dessinateur humoristique caricaturiste.
Oui, ce qui n'était pas une chose facile parce qu'il était en plein fascisme, hein, en plein mussolinisme, et c'était très dur. Il fallait qu'il fasse des dessins humoristiques qui contournaient les interdits. C'était un exercice à la fois très créatif, mais surtout il rêvait. Et un jour, il a rencontré un psychanalyste jungien qui s'appelait le professeur Bernhardt. Et c'est ce professeur Bernhardt qui lui a dit « Mais puisque vous savez dessiner et peindre, dessinez donc vos rêves dans le même temps que vous les notez. » Ce qui nous a donné un magnifique livre, en italien, Il libro dei sogni, en français, chez Flammarion, Le livre de mes rêves, qui va ressortir, il va y avoir une nouvelle édition le 15 janvier prochain.
À l'occasion du 100e anniversaire d'ailleurs de la naissance de Fellini, puisqu'il est né le 20 janvier.
Il est né le 20 janvier 1920. Oui, et c'est magnifique. Ce livre est une merveille, mais absolue, oui.
Bon, merci beaucoup Daniel Pénac d'être revenu dans la librairie francophone. La loi du rêveur est parue aux éditions Gallimard. De quoi avez-vous rêvé cette nuit ?
Il y a deux ou trois nuits, j'ai rêvé d'un livre, d'un roman d'Akira Mizubayashi que j'avais lu là, donc deux jours avant. Des musiciens se sont arrêtés par la police et un petit violon est brisé. Et l'âme de ce violon est brisée. Le narrateur répare ce violon sa vie durant et dans mon rêve, ce violon me parlait avec la voix d'Akira Mizubayashi.
Ah oui, carrément, ça va loin, ça va loin.
Voilà.
Bon, merci Daniel. Bonne nuit. Bonne nuit prochaine. Et on termine avec nos libraires et leurs coups de gueule et coups de cœur. Deuxième partie, Sophie Todescato, un coup de gueule en France ?
Oui, un coup de gueule.
Allons-y.
Un coup de gueule suscité par cette deuxième rentrée littéraire qui se met en route là, tout de suite, dès les premiers jours de janvier, qui, comme chaque année, nous est présentée comme légère, comme resserrée en nombre de titres, et qui, comme chaque année, nous oblige pourtant à faire de la place sur nos tables, dans nos librairies. Et on se retrouve donc avec en main des livres dont on se rend compte, qui sont parus en septembre, donc dans la fournée précédente des parutions, et dont on voit qu'ils n'ont jamais été vendus, pas une fois. Qui n'ont pas réussi à exister. Nous, libraires, avons échoué à leur trouver ne serait-ce qu'un lecteur. La presse n'a pas su ou n'a pas pu les mettre en valeur. Il y a quelque chose d'un peu désolant dans cette grande roue de l'édition qui, deux fois par an, tourne vraiment trop vite.
Merci Sophie. Claire Renaud en Suisse, on clôt cette émission avec un coup de cœur grâce à vous.
Oui, j'ai un coup de cœur pour Genève dans l'œil du drone aux éditions Slatkin. Alors, c'est un livre qui fait redécouvrir notre cher et joli canton grâce à ce drone piloté par Olivier Rittaoser. Alors, le résultat, c'est que les photos sont superbes et elles sont accompagnées en plus des textes de Christian Velas, qui connaît Genève mieux que sa poche. Et le format à l'italienne invite à l'ouvrir et éventuellement à l'acheter.
Voilà, pour découvrir Genève dans l'œil du drone aux éditions Slatkin. Merci Claire, merci à tous les libraires qui ont participé aujourd'hui encore à cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, voici un extrait du tout nouvel album de Brigitte Fontaine qui sortira le 24 janvier.
J'irai pas me coucher. J'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook.
C'était Brigitte Fontaine avec J'irai pas, extrait du nouvel album à paraître fin janvier. Et c'est la fin de cette édition. Je voudrais la dédier à toutes les victimes de Charlie Hebdo, assassinées il y a 5 ans tout juste par ces minables barbares que l'on nomme terroristes, en particulier à Volinsky et Cabu, les amis de la librairie francophone qui me manquent beaucoup. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Julien Dumont et Fabrice Desmaz. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et Swann Blanchet en France. Annick Chouin et Madeleine Tochet en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage culturel francophone. Salut.